week-end, certains d'entre vous en ont peut-être déjà profité, c'est le fameux carnaval vénitien à Annecy. Et la transformation de quelques 250 Annéciens et touristes en masques vénitiens. Et voici, comme un clin d'œil, un clin d'yeux, pour nous ce matin, en écho, le texte biblique de l'évangile de Matthieu, que l'on appelle assez maladroitement la transfiguration de Jésus. Ce texte est bien connu. Il se trouve dans les trois premiers évangiles. Il a aussi, en dehors d'être connu, une autre caractéristique. Il faut bien le dire, il reste quand même très mystérieux. Tels un peu ces masques qui déambulent dans les rues où nous ne savons pas qui est caché derrière. Car ce texte, il faut le dire, pour nous réformés ordinaires, classiques, historiques, il ne nous met pas très à l'aise, n'est-ce pas ? Ce texte parle de vision. Nous n'avons pas l'habitude de côtoyer beaucoup cette notion. Et s'il nous arrive de l'entendre dans la bouche d'un autre chrétien, cela nous fait plutôt tressaillir en général. Alors je ne veux pas généraliser ici une attitude réformée, mais quand même, notre tradition ne fait pas très bon ménage avec les visions et les signes venant de Dieu ou d'ailleurs. En revanche, nous sommes quand même régulièrement interpellés par nos frères et sœurs catholiques ou évangéliques, plus à l'aise avec ces signes et ces visions. On peut penser aux apparitions à Lourdes ou encore à bien d'autres choses. Et je crois que il est bon de pouvoir nous interroger. Et ce texte, ce matin, nous le permet. Alors, en bon élève, comme on me l'a appris lors de mes études, je suis allée chercher des réactions à ce texte de la part de nos savants exégètes. Vous savez, ces spécialistes des Écritures. Il y a différentes interprétations, je vous en livre quelques-unes. La première. Ce texte, en fait, serait une pré-résurrection de Jésus. Un petit peu comme une répétition générale. Essayons, dit Dieu ou Jésus, et voyons l'effet rendu. Eh bien, vu la réaction des disciples, nous pouvons lui répondre « Bravo, c'est réussi ». D'autres exégètes voient dans ce texte un assemblage savant d'éléments du Premier Testament, avec Moïse, Élie, vous l'avez entendu, mais dans ce que j'ai pu trouver comme commentaire, ils oublient de nous expliquer le pourquoi de ce puzzle. D'autres imaginent que Jésus et ses trois compagnons fuient l'excitation de la fête qui se tient en bas, vous savez, ils montent sur la montagne, qui est la fête des tabernacles. Ils voient là un Jésus mystique qui voudrait échapper au monde. Alors, je rappelle quand même que le tabernacle, c'est le sanctuaire portatif que les Israélites ont emmené avec eux dans la traversée du désert. Et le tabernacle contient l'arche, qui elle-même renferme les tables de la loi et contient les 10 commandements. Au début de notre texte, on parle des 6 jours. Ce texte fait allusion à la durée qui sépare le jour de l'expiation, qu'on appelle le Yom Kippour, de la fête qui est en train de se réaliser, la fête des tabernacles. Alors, avec toutes ces idées en vrac, il faudrait quand même essayer de voir pour nous quelle interprétation peut avoir ce texte. Qu'est-ce que ce texte a à nous dire ? Alors vous l'avez entendu, il y a trois personnages à côté de Jésus, des proches de son ministère. Est-ce que vous vous rappelez qui sont ces trois ? Pierre, Jacques et Jean. Eh bien, ces trois-là, on va les retrouver à un autre moment clé du ministère de Jésus. On les retrouvera à Gethsémané, au moment de la crucifixion. Et ils vont être à Gethsémané tout autant déconcertés qu'ils le sont ici, devant cette transformation de Jésus et devant l'apparition d'Élie et de Moïse. Pierre, parmi les compères, vous savez, c'est celui qui veut toujours bien faire, mais qui tombe souvent à côté. Alors Pierre, lui, dans l'incompréhension générale, il va avoir besoin de parler. Et il va dire, « Eh bien Seigneur, finalement, on sait bien d'être ici tous ensemble. Si tu veux, je vais préparer trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Pierre, en somme, dit à Jésus, « Eh bien Seigneur, tes amis arrivent, on va t'aider à faire les lits. » Un peu plus loin, à l'écoute de la parole de Dieu pour son fils, les trois hommes vont s'écrouler, nous dit le texte, face contre terre. Ce signe, bibliquement, signifie la crainte, le respect. Devant un signe de la gloire de Dieu, il n'y a finalement pas de parole d'émerveillement, pas de louange, pas de reconnaissance, mais de la crainte, face contre terre. Pour la plupart d'entre nous, il est difficile de croire raisonnablement au miracle. Mais tout de même, avons-nous une fois dans notre vie contemplé de nos yeux la gloire de Dieu, comme le font ici Pierre, Jacques et Jean dans ce texte? Ou pour le dire autrement, dans ce que nous avons pu voir, avons-nous reconnu une manifestation de la gloire de Dieu? Ou peut-être sommes-nous restés prostrés, sceptiques, suspicieux ou face contre terre? La critique bien aisée de notre part pour certains de nos frères et sœurs de voir des miracles partout et d'en attendre sans arrêt se retourne ici contre nous. Et chez nous, où sont nos miracles? Quand pouvons-nous contempler la gloire de Dieu dans nos vies et dans celles des autres? Quels sont les signes que Dieu me donne à voir au quotidien? Suis-je capable de les confesser comme tels? Car entendons-nous bien. Si je crois que Dieu a parlé aux prophètes, si je crois que Dieu a envoyé son Fils sur terre pour nous, si je crois que le Fils de Dieu est mort et ressuscité pour chacun, eh bien, je crois aussi que ce Dieu est toujours vivant dans ma vie, comme il l'était dans les récits bibliques. Alors, je crois bien sans équivoque que Dieu me parle, que Dieu me donne à voir, que Dieu fait des miracles dans ma vie, comme il fait tout cela dans la vie de bien d'autres, ce que je dois aussi pouvoir reconnaître. Dans cette vision de notre texte, que nous prenons maintenant au sérieux, Jésus se transforme. Le texte nous dit « Son visage brille comme le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. » Tous ces termes sont des termes bibliques traditionnels. Ils signifient que Dieu lui-même fait reposer sa propre gloire sur Jésus et qu'il reconnaît en lui le Messie qui vient sauver le monde. deux personnages apparaissent, Élie. Élie, dans la tradition juive, est celui qui prépare la venue du Messie. Et Moïse, il est celui par qui la première alliance a été conclue. Le texte nous dit qu'Élie et Moïse parlent avec Jésus. Ils parlent d'alliance, de cette nouvelle alliance qui s'accomplira avec la mort et la résurrection. Puis vient cette parole qui se fait entendre dans un nuage. « Celui-ci est mon Fils très aimé, c'est lui que j'ai choisi avec joie. Écoutez-le. » Ces quelques mots confirment cette nouvelle alliance de Dieu avec les hommes et les femmes en Jésus-Christ. Ces mots sont les mêmes mots qui sont utilisés pour le baptême de Jésus. Il ne s'agit alors plus d'écouter seulement Moïse, mais bien le Fils dans sa gloire de serviteur souffrant. Comme en témoigne cette scène, la gloire de Dieu et du Messie s'accomplit dans la douceur, le silence, la lumière, la clarté, mais aussi dans la souffrance. Tout à la fin du texte, quand Jésus explique à ses disciples que Élie est déjà venu et qu'il a souffert, il fait ici allusion à Jean-Baptiste qui l'a précédé. Et Jésus, par ses mots, parle aussi de sa propre souffrance à venir et ultime, celle de la croix. L'accueil de cette nouvelle alliance par les trois disciples. Ils sont face contre terre, nous l'avons dit, ils ont peur, mais ils vont être relevés par Jésus. Eh bien, cet accueil va refléter toute l'ambivalence de la croix, de la souffrance, mais aussi de la paix. Et par là même, tout l'enjeu de notre vie chrétienne. Souffrance et paix. Paix et souffrance. Souffre avec moi pour la bonne nouvelle, par la puissance de Dieu, dit Timothée dans sa lettre que nous avons entendue tout à l'heure. Ou encore ce texte de la Genèse où Abraham est appelé par Dieu à tout quitter. Ce texte illustre aussi ce paradoxe, cette difficulté, ces renoncements que nous devons aussi faire pour vivre aux côtés de Dieu. Être chrétien n'est pas chose facile. Nous ne sommes pas persécutés pour notre foi dans notre pays, et cela est un motif de reconnaissance. Toutefois, nos paroles et nos engagements sont parfois source d'incompréhension, de conflits, de souffrances ou même de violences de la part du monde. Être chrétien implique des choix de vie à assumer, au quotidien. Et tout cela n'est pas toujours facile avec le regard des autres. Ce texte donc bien loin d'un élan mystique, au cœur de l'Évangile, est un véritable condensé de la vie chrétienne par l'événement de la croix, souffrance et paix. Et en ce deuxième dimanche de Carême qui nous rapproche de Pâques, souvenons-nous que cet événement est bien le commencement et le cœur de notre foi, et non Noël, comme nous le pensons parfois. Si Jésus n'était pas mort et ressuscité, le Nouveau Testament n'aurait jamais été écrit. Ce n'est qu'après la résurrection que certains ont voulu transmettre cette histoire. C'est bien Pâques qui doit nous faire vivre. Alors, voilà, trois pistes de ce texte qui nous mettent en marche pour ce matin. La première, ne restons pas face contre terre, devant un signe de Dieu. Sachons reconnaître et nous émerveiller de sa présence dans nos vies et dans celles des autres. Le deuxième appel, toute notre histoire de chrétien est résumée ici, cette histoire qui chemine par la croix, paix et souffrance. Et enfin, Pâques est bien le commencement et le cœur de nos vies de chrétiens. N'ayons pas peur d'en témoigner simplement et ainsi de servir la mission que Dieu nous donne. À la toute fin de ce même évangile de Matthieu, allez, de toutes les nations, faites des disciples. Amen.